dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Le contexte immédiat, c'est que le peuple se détourne de Dieu, se confie dans une divinité qui s'appelle Baal, entre autres, il y en a d'autres, mais notamment le culte de Baal est instauré. Et ce culte de Baal, eh bien, c'est, on lui accorde le pouvoir de faire pleuvoir, de diriger les saisons. D'ailleurs, je me souviens, si, il y a quelques années en arrière, avec notre famille, nous étions allés au musée du Louvre. Il y avait tout dans le coin de Babylone, il y avait toute une présentation du culte de Baal. C'était intéressant, c'était tout à fait ça. Voilà le dieu qui conduit la météo, etc. Et le prophète Élie dit, ok, c'est votre choix, mais celui qui est vivant, le dieu d'Israël, le seul dieu, c'est l'Éternel. Et puisque vous vous détournez de lui, en son nom, il n'y aura ni pluie, ni, on l'a lu, hein, ni eau qui va tomber, ni pluie, ni rosée. Vous pouvez invoquer votre Baal, rien ne se passera, parce que le seul et véritable Dieu, c'est lui. Gloire à Dieu. Il va y avoir un mouvement de réveil, on va y revenir. Le temple l'autel de l'Éternel va être rétabli. Le peuple va revenir à Dieu dans un élan au Mont Carmel. Je passe sur les détails. Et puis, tandis qu'il y a une grande victoire, je voudrais qu'on aille maintenant au chapitre 19 et au verset 1er. Dieu répond à son peuple, la pluie revient parce que le peuple reconnaît que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et au chapitre 19 et au verset 1er, le roi Achab donc rapporta à Jézabel c'est sa femme, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Eh oui. Voilà, les prophètes de Baal ont été tués. Mais ça correspond aussi aux lois de l'Ancienne Alliance. Sur le pays d'Israël, on ne doit invoquer que le Dieu d'Israël. Voilà, les autres dieux, voilà. Et il nous est dit ceci. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva et mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit, il se tint à l'entrée de la caverne. Et une voix, et voici une voix, lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, c'est-à-dire tu verseras de l'huile, tu lui accorderas l'onction, je serai avec lui. » Tu viendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazael, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. C'est-à-dire, le combat continuera. La victoire sera assurée. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là et il trouva Élisée. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais parler de cette identité qui est la nôtre et au travers du prophète Élie, voyons que cet homme de Dieu est passé par une crise d'identité assez incroyable quand même, puisque cet homme de Dieu excellent, cet homme de Dieu qui ne connaîtra point la mort, puisque la Bible nous dit qu'il fut enlevé par des chars de feu, vous vous souvenez peut-être de cette image, et ça fait partie des hommes, des quelques hommes qui n'ont pas vu la mort. Moïse fait partie de cela, Élie fait partie de cela, Enoch également, et notamment Moïse et Élie se retrouvent sur la montagne de la transfiguration lorsque le Seigneur fait paraître sa gloire, il est le Fils de Dieu et Moïse et Élie sont là avec lui. Donc nous sommes face à un personnage clé des Écritures, à un homme de Dieu, et pourtant malgré tout, cet homme va dire, mais vous l'avez lu avec moi, tandis qu'il est sous ce genêt dans le désert, il s'est séparé de son serviteur. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha et sont dormis, et bien sous un genêt. Alors, je voudrais dire que la Bible nous dit que nous sommes des hommes de la même nature qu'Élie. Et si Élie a rencontré ce genre de problème, nous aussi, nous pouvons rencontrer ce genre de difficulté. Mais nous voyons que le Seigneur n'a pas abandonné son serviteur, alléluia. Il n'a pas abandonné Élie, mais au contraire, il l'a relevé, alléluia. Et il est tout à nouveau devenu efficace dans la mission que le Seigneur lui avait confiée. Et je pense que nous aussi, aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre que nous avons une identité marquée, une identité qui nous vient de Jésus. En guise d'introduction, je voudrais vous rappeler que tout ce que nous sommes, nous le devons à Jésus. Alléluia! Amen. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Nous avons une espérance vivante, alléluia, je vais y revenir dans un instant. Mais voyons que cette identité, qui est en Christ, elle a été en crise, elle a été retrouvée. Et elle était ensuite, une fois qu'il est passé par ce temps difficile, Élie est redescendu dans son contexte et a repris son chemin avec une onction nouvelle capable de transmettre ce qu'il avait reçu. Alors tout d'abord, parler de cette identité qui est en Jésus-Christ. L'identité d'Élie, elle tient à un seul verset, je vous l'ai lu tout à l'heure. Élie, on ne sait pas trop d'où il vient, le Tishbit, j'ai cherché Tishbé, un petit village en Galade. On ne sait vraiment pas même s'il existe ce village ou si ça ne veut pas dire quelqu'un qui est un colon, quelqu'un qui... Bref, c'est un peu un météore, Élie. Par contre, son identité tient à quelque chose de particulier. Il a un nom. Et dans la Bible, les noms ont une grande valeur. Élie, ça veut dire l'Éternel est mon Dieu. Dans un monde qui abandonne le Seigneur, dans un monde, à cette époque-là, Israël, qui est dans l'apostasie, on se tourne vers Baal, lui dit, le Dieu d'Israël est mon Dieu, c'est l'Éternel. Et puis ensuite, il est dit ceci, je reprends le texte, se présente l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Ça, c'est la version Louis II. Dans la version Darby, il est écrit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. On s'aperçoit que cet homme, il a une révélation de Dieu, il le nomme, c'est l'Éternel, c'est celui qui est, il est je suis, il est mon Dieu, il est ma force, il est vivant, c'est le Dieu d'Israël et moi je me tiens devant lui. Alléluia. On s'aperçoit qu'il y a une qualité d'intimité, de communion entre Élie et son Dieu qui est tout à fait extraordinaire. Et en réalité, je vous ai dit tout à l'heure, on ne connaît pas vraiment son origine, sinon qu'il est de Galade, on ne connaît pas ses parents, et souvent, et vous avez vu même Élisée, sa famille est citée, lui, rien du tout. Mais ce qui le qualifie, ce qui l'identifie, c'est sa relation avec le Seigneur. Alléluia. Et nous sommes ainsi, nous également, puisque nous avons également, et je vous le disais il y a un instant, si nous sommes ce que nous sommes, nous le devons au Seigneur. Alléluia. Amen. Celui qui s'appelle « Je suis », mais est venu jusqu'à nous. Amen. Celui dont le temps n'a aucune prise sur lui. Celui qui a dit « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Vous savez que le mot « je suis » en hébreu « Yahvé » est employé dans la Bible lorsque Dieu exprime sa relation avec les hommes. Lorsqu'il exprime sa puissance de création, sa puissance, c'est le mot « Elohim », c'est un pluriel de puissance. Lorsqu'il établit une alliance, une relation, c'est le mot « Yahvé », c'est celui qui est. Et lorsque Jésus vient, Dieu se fait homme, il emploie ce même registre en disant « je suis ». Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le bon berger. Je suis la lumière du monde. Tout cela pour dire, eh bien, je suis avec vous. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous avons découvert dans la personne de Jésus-Christ. C'est que Dieu est pour nous. Il est avec nous. Alléluia. Amen. Et nous avons découvert une vie formidable, une vie, eh bien, glorieuse, que son nom soit loué et glorifié. Le monde l'a rejeté, le monde l'a crucifié, il s'est laissé condamner, il s'est laissé meurtrir, il s'est laissé crucifier sur cette croix pour porter nos péchés. Voulons retenir ces paroles de Jésus qui résonnent encore dans notre cœur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour toi qu'il a donné sa vie, c'est pour tes péchés qu'il a payé le prix, afin qu'il n'y ait aucune condamnation sur ta vie. Dans cette semaine, parler avec quelqu'un qui veut s'engager avec le Seigneur, et nous avons parlé de cet amour de Jésus à notre égard. Et en parlant de cela, on a repassé notre attitude avant de le connaître. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons méprisé. Vous savez, un des noms, nous glorifions ce matin le nom de Jésus, le nom du Fils de Dieu. Mais vous savez que sur la terre, plusieurs méprisent le nom du Seigneur, se moquent du nom de Jésus. Et on était de cela. Et pourtant, il a donné sa vie pour nous à la croix. Alléluia. Et la personne avec laquelle je parlais me disait, mais face à cet amour, cette grandeur, cette bonté, les mots ne suffisent pas pour qualifier l'amour de Christ. Cette personne m'a dit, mais quelle honte pour nous de l'avoir méprisé alors qu'il est venu pour donner sa vie. Alléluia. Mais ce matin, nous voulons être comme Élie. Alléluia. En disant, celui que le monde méprise, c'est mon Dieu. C'est mon sauveur. Alléluia, je l'ai rencontré. Je veux le serrer dans mon cœur. Vous savez que, et je vous le lis dans 2 Rois au chapitre 2 et au verset 2, avant que Élie ne soit enlevé, Élisée va prier Élie de lui accorder, de prier pour lui, de lui accorder une onction particulière dans sa vie. Et il dira ceci, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Et Élie avait compris que ce qui faisait la puissance du prophète, ce qui faisait la puissance de la vie de cet homme, c'était sa relation avec Dieu. Dieu est vivant, Jésus-Christ est vivant, et il rend mon âme vivante. Alléluia. Et mes frères, mes sœurs, nous le savons bien, nous sommes ce que nous sommes par rapport à ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Nous avons chanté ce chant qui cite tous les qualificatifs, enfin quelques-uns des qualificatifs de Jésus, ce qu'il est réellement. Moi, j'ai trouvé dans la Bible d'autres points qui marquent notre identité en disant que nous sommes choisis, nous sommes aimés, nous sommes bénis, nous sommes rachetés, nous sommes purifiés, nous sommes prédestinés, nous sommes acceptés, nous sommes rapprochés, nous sommes crucifiés par rapport à ce monde, nous sommes élevés, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, etc., etc., etc. C'est-à-dire que nous avons tout pleinement Jésus-Christ. Alléluia. Et de la même manière, eh bien que, comment dire, Élie, eh bien, demeurait vivant par rapport à sa relation avec le Seigneur, de même, en ce qui nous concerne, nous n'existons et nous sommes ce que nous sommes que par rapport à la personne, eh bien, de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et comprenons que cette position de foi, c'est celle qu'il faut garder. C'est un peu une guerre de position que nous avons dans ce monde, une guerre de position. Alors, cette identité, néanmoins, elle va être attaquée. Parce que vous comprenez bien que le diable va vouloir quand même empêcher cet homme d'évoluer. Comprenez que l'Église de Christ, des hommes tels qu'Élie, dans une génération qui se complaît dans le mensonge, dans le péché, qui éloigne Dieu de sa sphère, mais aux yeux du diable, l'Église, c'est dangereux. On apporte la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le but eh bien, de l'adversaire va être de saper cette identité. Mon deuxième point, c'était une identité en crise. Vous avez remarqué que dans ce texte apparaît un personnage qui s'appelle Jézabel. Jézabel. Jézabel, c'est une reine impie, c'est une reine qui n'est pas juive. Le roi Akab s'est marié avec elle, c'est une sidonienne. Quelqu'un a dit, Akab, c'est la tête, et Jézabel, c'est le cou qui fait tourner la tête. Voilà. C'est-à-dire, on voit un homme complètement sous influence, influençable, entre les mains de sa femme. Et c'est une séductrice également. Elle a tué les prophètes, et elle apprend ce qui s'est passé dans un rassemblement du peuple de Dieu. Eh bien, Dieu a béni son serviteur Élie qui a rétabli l'autel pour nous aller. Rétablissons la croix, l'œuvre de Jésus, tout ce qui s'est accompli à la croix pour nous libérer de nos péchés. Et Dieu a répondu à la prière de telle sorte que eh bien, le peuple a compris que c'est l'Éternel qui est Dieu et on s'est débarrassé des prophètes de Baal. Et elle, voyant cela, elle est en furie, elle est en fureur et elle veut se débarrasser d'Élie, du prophète Élie, et certainement également, eh bien que c'est une femme qui est dans la peur, qui est dans la peur. Je vais revenir. Ne laissons pas entrer de Jézabel au milieu du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, il est saint. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Je crois vous l'avoir dit la semaine dernière, mais si nous avons été régénérés et si nous attendons eh bien, d'entrer dans ce ciel de gloire, eh bien, si nous attendons notre résurrection, je veux dire, c'est parce que eh bien, nous voulons entrer dans le ciel de gloire. Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le Saint-Esprit nous apprend à marcher, ça s'appelle la sanctification, nous rendre saints. Alléluia. Pour le Seigneur, parce que le but ultime, c'est d'être avec notre Père dans son ciel de gloire. Alléluia. Alléluia. Et ici, eh bien, Jézabel est dans l'Apocalypse, au chapitre 2, au verset 20. Nous voyons qu'une Jézabel s'était introduite dans une église. Alors, est-ce que c'était une allégorie? Est-ce que c'était un personnage qui a réellement existé? Enfin, en tout cas, il nous est dit qu'elle enseignait et qu'elle séduisait les serviteurs de Dieu, amenant à des compromis au niveau de la moralité. Et elle ne voulait pas se repentir. Et il y a eu un endurcissement qui est né eh bien, dans le cœur de cette femme. Et la fin en sera terrible, il y a un jugement. Et en ce qui nous concerne, nous comprenons que il peut y avoir une puissance de séduction concernant l'Église de Jésus-Christ pour lui faire perdre cette identité. Le diable est capable d'user toutes sortes de ruses jusqu'à s'introduire par toutes sortes d'influences. Nous enlever ce qui fait notre sel, notre force, notre identité, c'est-à-dire notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez que la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et en ce qui nous concerne, eh bien, nous voulons le garder, je crois l'avoir dit il y a quelque temps en arrière, il y a bien des choses qui peuvent évoluer dans notre monde, dans nos mentalités. On a des chants nouveaux, on a introduit des instruments de musique. Moi, je trouve que c'est très bien parce que dans la Bible, il y a des cymbales retentissantes. Bon, il n'y avait pas de guitare, mais les luths, la harpe, c'était les guitares de l'époque. Hein, voilà, voilà. Bon, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Mais on comprend que toutes ces choses sont faites pour élever le nom de Jésus. Alléluia. Et nous recherchons la sainteté. C'est notre marque. C'est, on a reçu cette nature. On ne fait pas ces choses pour nous-mêmes. Mais on les fait pour élever le nom de Jésus. Alléluia. Et nous voulons bénir eh bien, son bon nom. À lui soit la gloire. Et cependant, eh bien, tandis que le peuple revient, tandis qu'il y a même un réveil spirituel qui se fait au milieu du peuple de Dieu, Jézabel intervient et elle dit à Élie que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, eh bien, je ferai de ta vie ce que tu as fait à mes prophètes. Ça veut dire demain que mes dieux me châtient si je ne te tue pas. Tout à l'heure, j'ai parlé de fureur. Je pense qu'il y avait une fureur. Mais je pense aussi qu'il y avait eh bien, également une grande peur dans le cœur de Jézabel. Parce que certainement, elle sentait son influence en train de faiblir. Et il y a eu comme un coup de poker pour moi. Je fais un gros coup de bluff. Je vais faire peur aux prophètes. Et hélas, ça a marché. Hélas, ça a marché. Parce que, je voudrais vous dire, enfin, je ne suis pas spécialiste. Hein, je ne suis pas assez spécialiste des assassinats. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais je pense que si on veut tuer quelqu'un, on ne le prévient pas. Et on ne lui dit pas l'heure. Demain, tu vas voir. Moi, si quelqu'un me dit ça, je ne sais pas s'il y a un policier dans la salle, je vais voir la police et je dis, il y a le monsieur là, il m'a menacé. Ah bon, d'accord. Non, mais c'est normal, c'est comme ça, vous voyez. Hein. Et puis en plus, spirituellement, que mes dieux me traitent dans toute leur rigueur. Mais enfin, tes dieux, c'est n'importe quoi. C'est le seul dieu, c'est le dieu d'Israël. Et pourtant, face à des choses aussi simples, Élie, un homme de la même nature que nous, va trembler. Y a-t-il au milieu de nous un frère, une sœur, peut-être dans son contexte familial, peut-être face à certaines menaces, eh bien, qui est en train de trembler, peut-être à certains chantages qui sont là, eh bien, est en train de trembler. Je ne sais, mais je voudrais vous apporter eh bien, cette parole de Dieu. Eh bien, ne tremble pas, ne tremble pas. Parce que ton ennemi est un menteur et nous connaissons la fin. La Bible même nous dit ceci, c'est que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Le but de Jézabel a été de générer une peur. Hier, avec les jeunes, on a vu qu'on avait trois sources de combat. On combat contre le monde, l'esprit qui est dans ce monde, on combat contre notre chair. Mais on a aussi à se battre contre la puissance des ténèbres. Et une des armes du diable, c'est la peur. Je te fais peur. Goliath a fait peur à toute l'armée d'Israël, de telle sorte qu'aucun ne n'osait l'affronter. Si quelqu'un choisissait un homme du milieu de vous, dira le géant, 3,50 m, si c'est moi qui l'emporte, on serait esclave. Mais si c'est lui qui l'emporte, c'est vous qui dominerez sur nous. Mais maudissez l'armée d'Israël. Personne ne n'osait relever le défi. Tout le monde avait peur en entendant ces paroles. C'est une arme psychologique, c'est une arme spirituelle, la peur. Et il a suffi qu'un seul garçon qui faisait paître les brebis de son père, David, vienne un jour eh bien, visiter ses frères qui étaient dans l'armée pour qu'ils sentent que le Seigneur l'appelle à relever le défi. Et il n'a pas peur, lui. Lui, il dit une chose. Au-delà de tout ce que tu dis, de ton apparence, ceci, cela, la victoire, elle appartient à l'Éternel. Alléluia. C'est pas l'épée, c'est pas la lance qui donne la victoire. C'est Dieu. Et tu as insulté l'armée de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais te couper la tête. Il avait de l'assurance, le petit David. Hein. Gloire à Dieu, alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'il avait conscience de ce qu'il était, de son identité. Il n'était pas, depuis 40 jours, en train d'entendre un harcèlement psychologique. Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, est-ce que tu préserves ta vie spirituelle? Est-ce que tu préserves, on va y venir dans un instant, ce que le Seigneur t'a donné, ce que le Seigneur t'a confié? Est-ce que tu veilles sur ta position de foi? Est-ce que tu es celui, celle qui, eh bien, repasse dans ton cœur les promesses de Dieu à ton égard et qui cesse de ne plus écouter la voix de Jézabel. Je me souviens d'une période dans le service de Dieu, notre box est tombée en panne. On venait d'arriver dans une nouvelle église, ce n'était pas ici, et notre box est tombée. Je m'en souviens bien parce que c'était à l'époque où Barack Obama était intronisé, machin, alors il remet. Voilà. Et c'était intéressant. Mais moi, j'ai compris, tac, je te coupe la box, Emmanuel, comme ça, tu ne te laisses pas distraire par ça. Il y a d'autres combats. Alors, ça veut dire que le truc de Barack Obama, j'ai pas tout suivi. Mais par contre, j'ai suivi d'autres choses. Et besoin de veiller sur son cœur, sur les choses que nous écoutons, parce que lorsqu'on perd cette position qui est la nôtre d'enfant de Dieu, on devient immensément fragile. Je suis pas meilleur que mes pères. Ben, on le sait qu'on n'est pas meilleur. Peut-être que quelqu'un est usé. Il était fatigué. Peut-être qu'il était en burn-out. En tout cas, il dit, je me suis dépensé son compté. Il est cramé, excusez-moi du terme. Eh bien, Élie, il est sous son genêt, etc. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans ce texte, c'est l'infinie douceur avec laquelle le Seigneur traite son serviteur, son enfant, tandis qu'il est fatigué. Il ne lui dit pas, t'es un bon à rien, tu ne sers plus, je te laisse de côté, reste dans ton désert. Le Seigneur ne se conduit pas comme ça. Et je voudrais te dire ceci, et j'ai retrouvé une formulation d'un pasteur qui s'appelle, que vous connaissez certainement, le pasteur David Wilkerson, qui disait ceci, même si tu es en fuite, sache que Dieu est avec toi. Et je voudrais te dire ce matin, peut-être que tu as peur d'une situation, peut-être que tu es découragé, peut-être qu'il y a un combat que tu ne veux pas affronter, que tu recules et que tu t'enfuis dans le désert. Tu dis, je veux rencontrer plus personne, je vais louer le Seigneur à ma maison, je regarderai des vidéos, c'est simplement ça qui me suffira. J'en ai assez de me battre. Je voudrais te dire, le Seigneur, il ne va pas te lâcher. Il ne va pas t'abandonner. Et la Bible nous dit qu'un ange est venu, l'a réveillé, il lui a dit, lève-toi, mange, bois du pain, de l'eau. Et par deux fois, le chemin il est trop long pour toi. Le Seigneur va restaurer son âme. Alléluia. Souvenez de ce que David pouvait dire dans le psaume 23. Il restaure mon âme. Alléluia. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Ça veut dire, tu ne m'abandonnes pas. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Et je crois que ce qui est capable de te restaurer, c'est la parole de Dieu. En préparant ces moments, je me suis souvenu de la période où j'étais plus jeune. C'était dans les années 80, et je me souviens, quand je vous parle de télé, hein, bon, enfin, on est une génération qui a vécu avec des écrans, alors bon, voilà, c'est comme ça. Mais je me souviens que dans les années 80, et j'ai vu en 1985, il y a eu un journaliste, Jean-Paul Kaufmann, vous vous souvenez, qui a été pris en otage, je crois que c'était au Liban, et voilà, le 22 mai 85, il a été pris en otage par un groupe islamiste. Et le 4 mai 1988, il a été libéré. Et il raconte ce qui s'est passé dans cette période d'enfermement, d'isolation. Il avait une Bible. Vous pourrez retrouver tout ce que je vous dis. Vous allez sur Internet, Jean-Paul Kaufmann, Bible, otage, etc. Et il dira ceci, « Dieu m'a protégé. Quand je me sentais découragé, je priais longtemps, non pratiquant, je suis aujourd'hui imbattable sur la Bible. » C'est-à-dire que dans ces temps de découragement, ce qui l'a fortifié, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, toi qui es en train de fuir le combat, toi qui te sens découragé, qui te dis, mais à quoi bon, je n'y arrive plus. Le Seigneur ne va pas t'abandonner, alléluia. Mais il a encore ses promesses pour toi, il veut te fortifier, alléluia. Et l'Écriture nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'Écriture nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, alléluia. Et le Seigneur, eh bien, veut encore te fortifier. Il veut encore ranimer ta foi. Il y a encore de l'espérance. Alléluia. Et nous voulons bénir le beau nom de Jésus. J'avance pour dire que cette identité va être restaurée. Quand finalement, Élie arrive au mont Horeb, c'est le mont Sinaï, Dieu lui parle et dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas là que je t'avais dit de venir. Que fais-tu ici, Élie? On s'aperçoit qu'Élie, quand même, il avait construit sa vie spirituelle sur un modèle bien particulier. Qui c'est qui est monté sur le mont Horeb avec les tonnerres et tout ça? Vous connaissez tous. Dites-le-moi. C'est Moïse. Moïse. Et certainement, dans sa logique et dans sa pensée, il avait construit l'idée de la vie spirituelle, de la marche avec le Seigneur, de la marche avec Dieu. Eh bien, il avait construit autour de ce personnage central des Écritures, Moïse. Si Dieu m'appelle à le servir, dans les temps dans lesquels nous sommes, je dois être un nouveau Moïse. Je ne sais pas quel est ton Moïse. Je ne sais pas quel est ton modèle. Quel est le pasteur qui t'a marqué? Quel est l'enfant de Dieu qui t'a marqué, qui t'a peut-être même amené au Seigneur, celui qui a eu une empreinte sur ta vie spirituelle? Je ne sais pas. Mais je voudrais te dire ceci, cet homme, cette sœur, ce frère, ce pasteur n'a été qu'un instrument entre les mains de Dieu. Ton identité, elle n'est pas en lui, elle est en Jésus. Alléluia. Alléluia. Je me souviens, dans une certaine situation ici, j'étais en colère. Vous savez, un pasteur, ça ne se met jamais en colère, sauf à la Mosson. Oh, j'étais en colère. Je n'étais pas content parce que, je ne sais plus, je ne me souviens plus, il y avait quelqu'un qui avait fait quelque chose. Je n'appréciais pas. Et il y a une sœur. Je lui ai dit, je me suis confié de cette situation. Je lui ai dit, ma sœur, est-ce que vous croyez que si Albert Leblond avait été là, un tel se serait permis d'agir comme ça? Vous connaissez Albert Leblond, vous l'avez connu. Tac, tac. Et la sœur m'a répondu avec un sourire, elle m'a dit, ouais, mais toi, tu n'es pas Albert Leblond. Lui, il avait sa façon de réagir. Toi, le Seigneur t'a donné autre chose. Ah, d'accord. D'accord. Seigneur, alléluia. Et on a besoin de comprendre, eh bien, notre modèle. Le Seigneur restaure l'identité de son serviteur dans un murmure doux et léger. C'est là que le Seigneur est. Et ce murmure doux et léger, c'est la voix du Saint-Esprit. On a un homme qui est dans une situation de fuite, je ne dirais pas d'échec, parce que ce que Dieu lui a demandé de faire, il l'a fait, mais il y a une dépréciation de ce qu'il est, il est en train de déprimer, il est en pleine perte de repères, et il découvre une chose, c'est que l'amour de Dieu à son égard n'a pas changé, que l'intérêt du Seigneur pour son serviteur n'a pas changé, que son appel reste toujours là, et si ces choses sont écrites, c'est pour notre enseignement. Et je voudrais te dire ceci, mon frère, ma sœur, c'est pas parce que tu passes par un temps de déprime ou peut-être une période de ta vie où tu y arrives moins bien, ça peut tous nous arriver, oui ou non. On se sent parfois découragé que le Seigneur te repousse. Mais au contraire, eh bien, dans ce temps particulier, il me semble que Élie a mesuré quelque chose de supplémentaire dans la restauration de son identité. Dieu ne m'aime pas pour ce que je fais, pour les résultats que je lui apporte, mais il m'aime pour ce que je suis. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Alléluia, parce qu'il veut me voir dans son ciel de gloire. Alléluia. Et je voudrais te dire ce matin, mon frère, ma sœur, si tu laissais passer, eh bien, la grâce de Dieu dans ta vie, et si des situations difficiles que tu traverses t'apprenaient à découvrir qu'en réalité, eh bien, tu es ce que tu es parce que Dieu veut faire de toi son enfant et veut te faire entrer dans ce ciel de gloire. Alléluia. Amen. Et parfois, le Seigneur change notre mentalité à l'égard de Dieu On pense qu'on est dans une obligation de résultat, parce que dans l'entreprise, c'est comme ça, dans notre monde, c'est comme ça. Tu dois apporter du résultat. Mais là, si je suis sec, si je suis découragé, si j'y arrive plus, Seigneur, est-ce que j'ai encore de la valeur dans ma vie? Est-ce que ma vie a encore de la valeur? Hier, avec les jeunes, on parlait de ce garçon, l'apôtre Paul. Je dis que c'est un garçon, enfin, un homme de Dieu, avec une écharpe dans la chair. On ne va pas y rentrer. Et cet homme est placé dans un état d'humiliation. Et Dieu ne lui enlève pas cette écharpe. Il veut qu'il la garde, qu'il reste dans cet état d'humiliation. C'est un homme brillant. C'est un intellectuel hors pair. C'est un érudit, l'apôtre Paul. Même les incroyants, lorsqu'ils lisent les démonstrations théologiques de l'apôtre Paul, ils sont saisis par la capacité, la puissance de son raisonnement. Bien sûr, il y a le Saint-Esprit, mais il y a un homme qui est quand même capable d'écrire aussi. Et pourtant, cet homme, il est placé dans un état d'humiliation. Ce n'est pas glorieux quand on le voit. Paul dira, vous n'avez montré ni mépris à mon égard, vous seriez arraché même vos yeux pour me les donner. C'est pour ça qu'on suppose qu'il y avait peut-être un problème des yeux, peut-être que ce n'était pas agréable de le voir, l'apôtre Paul. Et pourtant, Dieu lui dit, je te laisse comme ça. Pourquoi, Seigneur, mais pourquoi? Parce que ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 6, hein, si je ne me trompe pas. Et que ce matin, eh bien, tu puisses entrer dans cet état et de dire, eh bien, j'ai du prix, eh bien, aux yeux du Seigneur. Alléluia. Le temps manque parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en attendant, voilà, cette identité, elle est assumée parce que finalement, eh bien, c'est comme ça que va restaurer, et ayant passé par cet état difficile, que Élie va descendre de cette montagne et va revenir auprès de son peuple. Et vous avez remarqué qu'il est passé par un temps dur. Je suis convaincu que tout le monde a été au courant de ça. Tout le monde l'a su. Que le grand prophète Élie, il a fui devant une femme, devant la parole d'une femme. Tout le monde l'a su. Il est parti, il allait, on ne sait pas où, il est revenu. Il n'a pas eu honte du regard des hommes et des femmes de son temps, parce qu'il a été rétabli avec le Seigneur, comme pour nous laisser un message. Un homme de la même nature que nous, avec ses forces et ses faiblesses, mais qui est ce qu'il est? Par la grâce de Dieu. Alléluia. Vous savez que la Bible s'emploie à déconstruire les héros, ses propres héros. On parlait tout à l'heure de Moïse. Moïse, le grand Moïse. Ouais, mais enfin, Moïse, quand Dieu l'appelle, il ne veut surtout pas y aller. Oui ou non? Dieu est obligé même lui de mettre son frère à côté. Ce n'est pas le plus spirituel, mais encore pour l'aider. Voilà. Et il dit, mais qui suis-je? Je dis, mais je suis avec toi. Alléluia. Moïse est ce qu'il est parce que le Seigneur est avec lui. Alléluia. Et je voudrais te dire ceci, eh bien, c'est que rempli de cette onction renouvelée, Élie va faire entrer dans ce combat d'autres avec lui. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, j'ai eu un coup de moins bien. Oui, c'est vrai, dira-t-il, eh bien, j'ai eu peur, mais mon Dieu m'a rétabli. Mon Dieu m'a restauré, alléluia, et je reprends le combat. Et son influence est toujours la même, parce que lorsqu'il appelle un garçon qui est riche, Élisée, qui a des bœufs, et à l'époque, c'est comme s'il avait des Ferrari, eh bien, le gars, il écoute, mais c'est Élie qui m'appelle, c'est le Seigneur qui m'appelle, mais il laisse tout, il suit. Eh bien, le prophète, il va devenir un homme de Dieu. Et puis, non seulement ça, Azaël, Jéhu, aussi vont entrer plus tard, eh bien, dans ce combat contre Baal, parce que les trois, eh bien, vont être des combattants vis-à-vis de ce culte-là. C'est-à-dire qu'il va faire entrer, eh bien, dans ce combat, d'autres hommes et d'autres femmes. Alléluia, merci Seigneur, amen. Et nous voulons dire, Seigneur Jésus, merci parce que tu es celui qui nous fortifie. Alléluia. Amen. La véritable identité d'un enfant de Dieu, c'est quoi? Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Et je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et il y a une position que je ne veux pas perdre, être à genoux à tes pieds. Alléluia. Amen. Et si, Seigneur, tu m'avais fait passer, et je parle peut-être à la place de quelqu'un, pour éprouver ton amour envers moi qui ne dépend pas de ce que je suis capable de faire ou de ne pas faire, bien Seigneur, je te remercie. On l'a chanté, hein ? Tu donnes, tu reprends. Je choisis de dire que ton nom soit béni. On l'a chanté tout à l'heure. Oui ou non ? Seigneur, je veux t'apprendre à te bénir et à t'aimer en toutes circonstances. Alléluia. Petite remarque quand même, et je termine complètement. On va prier. Pour dire que cet homme est sorti quand même vainqueur de son combat. Alléluia. Il n'a pas traîné une casserole. Et il était vainqueur. Alléluia. On va prendre la Sainte-Seine dans un instant. Mais Jésus veut te fortifier. Alléluia. Amen. Il veut te renouveler. On va prier le Seigneur. Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, combien nous voulons te dire que nous sommes ce que nous sommes par ta grâce, Seigneur. Mon Dieu, c'est grâce à toi, Seigneur, c'est grâce à la croix. Tu as vaincu Satan, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché. Et Seigneur, nous voyons comme un homme de Dieu extraordinaire a su se laisser effrayer, Seigneur, par Jézabel. Seigneur, mais tu ne l'as pas abandonné. Et tu vois celui, celle qui, peut-être, malgré tout ce qu'il sait de toi, a perdu pied. Et Seigneur, c'est comme enfui dans un désert ce matin. Et Seigneur, mais tu as rattrapé ton enfant. Et tu lui dis, je te fortifie. Allez, reprends ta position, je suis toujours avec toi. Je t'aime d'un amour qui ne changera jamais. Par contre, je t'ai appelé à être un témoin dans cette génération. Tel ministère d'Élie, Seigneur, être un témoin, être une lumière qui brille dans sa génération. Alléluia. Alors Seigneur mon Dieu, nous allons reprendre le pain et le vin et nous allons nous confier dans le Dieu d'amour. Alléluia. Dans celui qui est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur.